Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Je suis très heureux de vous retrouver. Je m'appelle Jean-Noël et je suis ravi de vous retrouver sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h pour parler de l'actualité scientifique. Une actualité scientifique riche encore. Alors, c'était ma reprise la semaine dernière après quelques temps d'absence. Et pour cette émission de la semaine dernière, je n'ai pas eu l'occasion encore de donner toutes les informations que j'avais prévues. Donc, il y a eu quelques frustrations la semaine dernière, mais on va rattraper cela aujourd'hui avec pas mal d'actualités scientifiques sur différents sujets. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion de l'émission de mardi matin à 10h. L'antenne de Graphite, eh bien, c'est sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous avez l'autre également de pouvoir récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Et alors, il faut que je regarde, parce que du coup, c'est sur le côté, parce que depuis très peu de temps, en fait, Graphite est présent sur l'application Radio Player France. Donc, si vous disposez de cette application sur votre smartphone, eh bien, vous pouvez récupérer Graphite donc sur Radio Player France. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars. C'est la journée mondiale de l'eau instaurée par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Donc, journée mondiale de l'eau. Voilà, c'est bon à savoir. Au niveau de l'éphéméride, le 22 mars 1960, c'est le brevet du laser qui a été déposé. 1960, brevet déposé par Charles Townes et Arthur Shallow. En 2017, l'Organisation météorologique mondiale ajoute 12 types de nuages à l'Atlas international des nuages. C'est la première mise à jour depuis 1986. C'était donc le 22 mars 2017, 12 nouveaux types de nuages. Très bien, ce sera intéressant d'ailleurs de consulter un petit peu cet atlas international des nuages pour savoir de ce dont il s'agit précisément, parce que c'est assez, je sais pas, à part les cumulonimbus, je vois pas trop précisément, donc à suivre. Naissance, le 22 mars 1852 d'Hubert Jacob Ludwig, et c'est un zoologiste, mycologue, chercheur, professeur, conservateur de musée. Il a quand même fait pas mal de choses en 1887. Il devient professeur de zoologie à l'université de Bonn. Il fut le premier à engager comme assistante une femme, Maria von Linden, qui devient par la suite professeure dans cette université. Hubert Ludwig fut également directeur du musée zoologique de cette université de Bonn. Il est donc né un 22 mars. Décès le 22 mars 1762 du physicien britannique John Canton. Canton, d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Canton en français. Canton, je suppose, comme il est britannique. En 1751, il lit devant la Royal Society un article dans lequel il décrit une méthode pour créer des aimants artificiels, quand même assez intéressant. Il est le premier en Grande-Bretagne à vérifier l'hypothèse de Benjamin Franklin sur l'identité de la foudre et l'électricité, quand même. Et en 1753, il s'aperçoit qu'un objet métallique isolé peut se charger électriquement sans entrer en contact avec un corps chargé, quand même totalement fascinant. Nous sommes au milieu du 18e siècle et on faisait déjà pas mal de découvertes assez intéressantes. Biotine, donc, tous les samedis sur l'antenne de Graphite. Nous feuilletons un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique. Alors, je parlais lors de l'émission de la semaine dernière de cette campagne concernant le cancer colorectal. Et en fait, il y a eu une autre information qui a été diffusée il y a quelques jours qui est assez, qui a fait assez parler, excusez-moi. C'est nombreux scientifiques qui alertent sur une tendance récente et qui va crescendo concernant l'apparition de cancers, notamment digestifs, chez les jeunes. En fait, on pensait que le cancer était étroitement lié au vieillissement. Eh bien, la situation actuelle, dont la compréhension est un enjeu majeur pour l'avenir, nous prouverait apparemment le cancer, un tsunami auquel il faut se préparer. Lors d'une conférence de presse de l'Institut Gustave Roussy, eh bien, le professeur Fabrice Barlesi, oncologue et directeur général de ce centre anti-cancer qui est basé au sud de Paris, il a souligné l'importance d'investir dans la lutte contre les cancers chez les jeunes, un fléau qui inquiète de nombreux scientifiques, il y a certains qui parlent même d'épidémie. Dans la presse People, il y a des exemples qui ont été nombreux et marquants ces dernières années, hein, Kate Middleton, bien sûr, Caroline Receveur, Olivia Moon, Chadwick Boseman, qui est emporté à l'âge de 43 ans. Il y a plusieurs études qui confirment cette tendance. En 2023, il y a une étude publiée dans The British Journal Medical qui estimait que l'incidence mondiale du cancer précoce, le cancer précoce, c'est le cancer des personnes de moins de 50 ans. Eh bien, l'incidence avait augmenté de près de 80%. Le nombre de décès par cancer à début précoce a augmenté de 28% ces 30 dernières années dans le monde. Selon cette même étude, les projections indiquent que le nombre mondial de cas et de décès liés au cancer précoce augmenteront de 30%. Donc, c'est quand même d'ici 2030. Donc, c'est quand même une tendance qui est assez marquée et qui inquiète beaucoup. En France, plus récemment, une autre étude qui a été publiée en décembre 2024, donc il y a quelques mois, par The Lancet Oncology, et qui a fait parler d'elle, cette étude, parce que selon les résultats, les cancers devraient augmenter de 12% dans le monde chez les 15-39 ans entre aujourd'hui et 2050. Augmentation de 12% chez les jeunes, justement, c'est quand même assez inquiétant. En France, selon l'OMS, 15 000 patients de 20 à 40 ans ont été touchés par un cancer en 2022. Selon les résultats d'une étude justement qui a été menée par l'Organisation mondiale de la santé, entre 1998 et 2017, donc on est sur une période de 20 ans, l'incidence standardisée selon l'âge des cancers colorectaux, du pancréas et du sein a augmenté chez les femmes âgées de 20-39 ans. Chez les hommes, ce sont les cancers du pancréas et du sein qui enregistrent les progressions les plus marquées. Et du rein, pardon, pas du sein. Chez les hommes, c'est du rein. Et qui enregistrent les progressions les plus marquées. En 2019, le Covid est devenu un tsunami qui nous a dépassés. On en est exactement là concernant les cancers chez les sujets jeunes. Aujourd'hui, c'est imperceptible parce que le nombre de cas qui est en train d'être diagnostiqué reste encore relativement modeste. Mais on voit bien que la dynamique est extrêmement importante, notamment en ce qui concerne les pathologies digestives. C'est ce qui explique le professeur Barlesi. Pour rappel, les cancers digestifs concernent des tumeurs qui se développent sur l'ensemble du tube digestif, donc ça va de l'œsophage jusqu'au rectum, ainsi que dans d'autres organes comme le foie, le pancréas et les voies biliaires également. Ainsi, selon l'étude de 2023, ce sont notamment les cancers de l'intestin, de l'estomac et du pancréas qui augmentaient le plus, et ça s'appuyait sur une étude américaine qui était sortie l'été dernier. Eh bien, le spécialiste cite des chiffres un petit peu vertigineux. Je cite, pour les personnes nées à partir des années 90, le risque de développer un cancer du côlon est multiplié par 3,6. Il l'est par 2,5 pour le cancer du pancréas. C'est quand même des chiffres assez importants, bien évidemment. Alors, comment on peut expliquer ce phénomène? C'est toute la question. Et il est sans doute multifactoriel et il n'y a pas de causalité clairement établi. Le professeur Barlesi, il a été interviewé sur RTL il y a quelques jours, il explique que l'alimentation ultra transformée est bien associée à un risque accru de cancer digestif, mais sans que le lien de cause à effet ne soit clairement établi. Et on peut également citer l'exposition aux microplastiques, à la pollution, le surpoids, l'inflammation chronique, et ainsi de suite. Donc le responsable de cet institut, Gustave Roussy, plaide pour une meilleure prévention et une meilleure compréhension également des cancers, et notamment des cancers digestifs. Et pour cela, le Centre Anti-Cancer s'apprête à lancer un projet qui s'appelle YODA pour Young Onset Digestive Adenocarcinome. Ça va être dans les prochains jours, prochaines semaines. L'objectif, en fait, de ce projet, c'est d'évaluer les possibles effets de la pollution environnementale, de la nutrition et du mode de vie dans la survenue de cancers digestifs d'apparition précoce. C'est d'identifier un petit peu les signatures moléculaires chez les patients qui sont jeunes, afin de pouvoir développer des approches de médecine de précision et de proposer un plan de prévention adapté au cancer digestif à apparition précoce. Donc, il y a l'augmentation des cancers chez les jeunes, il y a le vieillissement et la croissance de la population qui sont également deux autres facteurs qui expliquent l'explosion des cas de cancer attendus d'ici 2050. Plus de 35 millions de nouveaux cas de cancer devraient être enregistrés en 2050, soit une augmentation de 77% par rapport aux 20 millions de cas estimés en 2022. C'est ce qu'explique l'Organisation mondiale de la santé. Reste que 40% des cancers pourraient être évités. Il y a des leviers d'action, le tabac, l'alcool, la sédentarité, l'alimentation notamment. L'Institut Gustave Roussy a ainsi lancé un projet qui s'appelle Inception ou Inception, qui est dédié à la prévention et la prise en charge précoce des cancers. L'idée, c'est d'identifier les personnes à risque en fonction des modes de vie, mais aussi des antécédents personnels et familiaux, et de leur proposer un accompagnement personnalisé. Donc voilà un article et une conférence de presse qui a fait pas mal parler avec cette explosion. Certains scientifiques parlent de tsunami à venir concernant le cancer qui touche de plus en plus de jeunes, avec une hausse préoccupante des cas mortels pour les jeunes de moins de 40 ans. Donc voilà, je suis désolé de commencer cette émission avec quelque chose qui plombe un peu l'ambiance, mais c'était un article que je voulais évoquer la semaine dernière parce qu'on avait parlé de cette campagne choc du cancer colorectal qui concerne là les personnes, cette campagne plutôt pour les personnes de 50 à 75 ans. Mais il y avait cette annonce qui était assez préoccupante de cette explosion des cancers chez les jeunes. Voilà. On va écouter un petit titre pour pouvoir, avoir une petite respiration musicale, ça nous fera du bien. Et on va continuer comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Je voulais également l'évoquer la semaine dernière, j'ai pas eu le temps, j'en suis désolé. On va évoquer cette semaine cet article qui évoque la CIA et qui nous annonce que le Covid-19 se serait probablement échappé d'un laboratoire.
Sure. the touching of the sky. Imagine ever just a bite.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
C'était Beef Paradise sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Je suis très heureux d'animer cette émission où on parle un petit peu de toute l'actualité scientifique et on feuillette un petit peu comme ça, d'un œil un peu distrait, cette revue de presse de l'actualité scientifique. Il y a certains articles qui nous interpellent quand même. Et là, quand on parle du Covid, on est quand même obligé de s'arrêter là-dedans, tellement ça nous a marqué. Hein, c'était il y a quand même 5 ans. Et bien plus de 5 ans après l'émergence de la pandémie qui a paralysé le monde durant plusieurs mois, les débats continuent pour tenter d'identifier l'origine de ce virus Covid-19. Les versions initiales laissaient supposer que la consommation non régulée d'animaux sur un marché de la ville de Wuhan en Chine avait un petit peu lancé le rouleau compresseur, mais il y a des rapports déclassifiés ces derniers jours par l'administration Trump qui livre une autre version des faits. Selon la CIA, l'hypothèse la plus probable et que ce virus se serait échappé d'un laboratoire implanté à Wuhan. Une assertion à prendre avec précaution parce qu'il y a quand même un manque de preuves matérielles directes. Alors revenons en arrière, en décembre 2019, les premières contaminations apparaissent dans la métropole chinoise de Wuhan, rappelant un petit peu des pneumonies particulièrement agressives. Le 10 janvier 2020, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, attribue au virus le nom de Covid-19, le nom de 2019, pardon, N-Covid, tandis que les cas flambent en Chine, les autorités craignant une résurgence du ce qu'on appelait le STRAS, c'était le syndrome respiratoire aigu sévère, et deux mois plus tard, au mois de mars, il y a de nombreux pays qui se voient touchés par un taux de contamination toujours plus élevé. Le 16 mars 2020, 170 000 cas sont recensés en France, dont 6 500 décès, soit un taux de mortalité avoisinant les 4%, de quoi justifier un premier confinement, tandis que la majorité des pays du globe tentent de s'adapter à la pandémie. Il faut attendre la fin de l'année 2022 pour considérer la maladie suffisamment maîtrisée, malgré la vigilance des agences de santé. Il y a plusieurs grands journaux qui dénoncent l'opacité de la Chine sur la propagation du virus et son impact sur les populations. Le Parti communiste chinois est notamment accusé d'avoir dissimulé le nombre réel de morts liés à la maladie, Pékin ayant toujours rejeté les sources occidentales. Et en parallèle, l'un des objectifs, est de comprendre l'origine de cette Covid-19. Si la thèse initiale de son apparition renvoie au gigantesque marché de Wuhan, eh bien la ville abrite aussi un grand institut lié à la virologie, de quoi susciter bien sûr les spéculation pour une partie de la population. Et donc l'hypothèse d'une fuite, eh bien, elle est rapidement balayée, elle est reléguée au rang de théorie complotiste jusqu'en 2023. Et en 2023, notamment le 1er mars 2023, le directeur du FBI, Christopher Wray, révèle que des enquêtes menées par le Bureau fédéral déterminent qu'un incident en laboratoire a possiblement provoqué une fuite du virus et sa diffusion dans l'espace public. Les autorités chinoises dénonçaient des mensonges à viser politique de la part de Washington. Plus récemment, en décembre 2024, il y a un article publié dans la revue Nature qui relatait qu'une virologiste de l'Institut de Wuhan, elle s'appelle Shi Zhengli, elle avait communiqué le séquençage de plusieurs souches de coronavirus telles que réalisées par le laboratoire, et aucune donnée ne correspondait alors avec le travail de séquençage de la Covid-19. Il est néanmoins peu probable, nous dit cet article de Futura Science, que le Parti communiste chinois, qui est férocement répressif, accorde à ses scientifiques autorisation de communiquer sur des éléments confidentiels pouvant être liés à l'apparition de la maladie. Tu m'étonnes, pour une fois qu'il y a une communication d'une scientifique, là, c'est pour nous dire que non, il n'y a aucun lien, en fait, avec ce qui a été fait dans le laboratoire. Quelques jours plus tôt, toujours en décembre 2024, la Chambre des représentants des États-Unis présentait un rapport d'enquête de 520 pages. La conclusion pointe de nouveau vers une fuite du laboratoire probable, bien que des élus démocrates aient épinglé un manque d'éléments matériels. Donc, sous la houlette de William Burns, directeur de la CIA sous l'administration de Joe Biden, les pistes explorées par l'agence convergent aussi vers une fuite de laboratoire, ce que confirme le nouveau directeur John Ratcliffe, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois qui niait les accusations des institutions américaines dans une déclaration en janvier. Eh bien, la Chine considère improbable que le virus se soit échappé de l'Institut, proclamant que les États-Unis, je cite, voient un intérêt à politiser et instrumentaliser l'origine de la pandémie. Donc une certitude demeure, hein, c'est qu'il y a un voile d'incertitude justement qui continue de planer au-dessus de l'histoire de la Covid-19 et de l'éclatement de la pandémie. Donc voilà, c'est encore un article et encore une information supplémentaire. On saura peut-être un jour ce qui s'est réellement passé, mais donc voilà, ce virus se serait probablement échappé d'un laboratoire, en tout cas c'est ce qu'annonce la CIA. Donc c'est affaire à suivre, bien sûr. On va parler un petit peu de pédagogie, et c'est assez intéressant d'évoquer cet article qui parle notamment de la Suède. On ne parle pas souvent de la Suède. En 2009, la Suède avait fait le pari un peu audacieux de remplacer les livres scolaires par des outils numériques. En 2009, hein, quand même déjà un certain temps. Eh bien, 15 ans plus tard, ce pays fait volte-face et a investi 104 millions d'euros pour réintroduire les manuels imprimés dans ses salles de classe. Ce revirement spectaculaire met en lumière les défis complexes auxquels font face les systèmes éducatifs à l'ère du numérique. Au début du millénaire, la Suède voyait dans la numérisation de l'éducation une voie prometteuse vers la modernité. L'introduction massive d'ordinateurs et de tablettes visait en fait à rendre un peu l'apprentissage plus attrayant, plus accessible. Les autorités éducatives espéraient de manière similaire préparer les élèves à un monde professionnel de plus en plus digitalisé. Toutefois, cette transition numérique a rapidement montré ses limites. Malgré les investissements conséquents, les résultats escomptés ne se sont pas matérialisés. Les parents, les enseignants ont commencé à exprimer leurs inquiétudes face à une utilisation excessive des écrans, souvent détournée aussi de sa vocation éducative initiale. Il y a des études récentes qui ont mis en évidence les effets néfastes d'une surexposition aux écrans dans le contexte scolaire. La lecture sur des supports numériques, ça s'est révélé un petit peu plus fatigant pour les yeux et c'était moins propice à la concentration que la lecture sur papier. Et en plus, la rétention d'informations et la compréhension des textes semblent être affectées de façon négative par l'utilisation des écrans, qui sont en plus des écrans rétroéclairés. Au-delà des aspects cognitifs, il y a l'omniprésence des outils numériques qui a engendré des problèmes de distraction chronique. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux élèves, au lieu de se concentrer sur leurs leçons, mais qui succombaient à la tentation des jeux en ligne et de la navigation Internet. Tu m'étonnes. Cette situation a suscité des inquiétudes quant au développement des compétences sociales et à la capacité d'attention des jeunes générations. Et donc, face à ces constats alarmants, eh bien, le gouvernement suédois a pris une décision radicale. Entre 2022 et 2025, il y a donc un budget conséquent de 104 millions d'euros qui sera alloué pour garantir que chaque élève dispose d'un manuel papier pour chaque matière. Cette initiative vise à rétablir un équilibre dans l'approche pédagogique où le numérique vient en complément des méthodes traditionnelles plutôt qu'en remplacement. Donc cette orientation stratégique s'accompagne de campagnes de sensibilisation et d'un accompagnement des établissements scolaires dans cette transition. L'objectif, c'est de revaloriser les compétences fondamentales telles que la lecture et l'écriture, dont le déclin a été observé ces dernières années. Et donc les autorités suédoises reconnaissent avoir sous-estimé l'importance des méthodes d'apprentissage éprouvées au profit d'une modernisation précipitée. Et donc le retour aux manuels imprimés, aux livres, aux bouquins, ça ne signifie pas pour autant un rejet total des technologies numériques. Hein. La Suède, elle cherche plutôt à essayer d'établir un modèle un peu hybride où les outils, les supports digitaux seront utilisés de manière ciblée et réfléchie. Et cette approche vise à tirer parti des avantages du numérique, tout en préservant bien sûr les bénéfices éprouvés de l'apprentissage traditionnel. Et donc cette expérience suédoise, elle est assez intéressante parce qu'elle offre des enseignements précieux pour les autres pays qui sont confrontés aux défis de l'éducation à l'ère numérique. Elle souligne justement cette expérience, l'importance d'une intégration prudente et réfléchie des nouvelles technologies dans les systèmes éducatifs, sans pour autant négliger les fondamentaux de l'apprentissage. L'aventure éducative suédoise illustre la nécessité d'une approche équilibrée entre tradition et innovation dans l'enseignement. C'est vraiment un article assez intéressant et un retour d'expérience de la Suède sur ce sujet-là. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. C'est de l'actualité scientifique, mais c'est également un peu de musique. Et on se retrouve juste après pour continuer ensemble à feuilleter cette actualité scientifique très dense.
Drive them into all the wrong places.
c'était les Strata. On aime bien les Strata sur l'antenne de Graphite d'Acide to the Burn. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite et la rediffusion le mardi matin à 10h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet avec la possibilité de récupérer les podcasts et donc sur l'application Radio Player France. Si vous avez cette application sur votre téléphone, eh bien vous pouvez écouter Graphite sur cette application directement. On continue donc à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Nous connaissons la date à laquelle nous allons atteindre le point de basculement du climat. Hein. Si le rythme de réchauffement se poursuit de manière similaire à celui des 30 dernières années, nous allons atteindre les 1,5 degré de réchauffement comparé à la période pré-industrielle en septembre 2029. Donc septembre 2029, c'est demain. C'est-à-dire qu'on y va directement. Là, ça y est, on est bien parti. Copernicus affirme donc que ce seuil que quasiment tous les gouvernements du monde s'étaient engagés à ne pas franchir, on se rappelle. Hein. Eh bien, ce seuil sera donc atteint d'ici 4 ans. Il y a beaucoup de climatologues qui s'accordent sur le fait que c'est à partir de ce moment que de nombreux points de basculement seront franchis. L'effondrement de la calotte glaciaire du Groenland, le dépérissement de l'Amazonie en font partie notamment. Alors le niveau de réchauffement comparé à la période 1850-1900 se situe actuellement à plus 1,38 degrés selon l'organisme de surveillance du climat. Copernicus, en fait, c'est une référence mondiale en matière d'études du changement climatique, mais il faut préciser que plusieurs autres organismes moins officiels affirment que le seuil des 1,5 degrés de réchauffement a déjà été franchi, et cela depuis 2023. Les conclusions de chacun de ces organismes peuvent être légèrement différentes en raison des modes de calcul qui varient, mais quoi qu'il en soit, le constat et le même, il y a urgence à limiter le réchauffement planétaire. Donc voilà, ben on y va. On peut peut-être même déjà essayer de dépasser, ou en tout cas, si ça ne l'est pas encore, ça va être bientôt le point de basculement du climat. On parle très très souvent, bien sûr, du climat au sens large, en tout cas du dérèglement climatique dans cette émission, avec presque toutes les semaines des articles qui nous donnent encore une illustration concrète de plus en plus effrayante de ce qui se passe au niveau du climat. D'autres articles... Alors, j'arrive pas à récupérer mes feuilles, je suis désolé. Je suis tout encore dit au niveau des doigts. Alors, deux petits articles assez intéressants qui parlent de deux sujets totalement différents. Déjà, on va aller dans les rivières et dans les lacs d'Afrique, d'Australie, d'Amérique du Sud. Il y a un poisson peu commun qui évolue discrètement sous la surface de l'eau. Il a un corps un peu long, un peu cylindrique. Il s'appelle le dipneuste. Il est appelé également lungfish en anglais. Ça ressemble presque à une grosse anguille avec des grandes nageoires, hein, quelque part. En fait, ce qui le rend spécial, ce n'est pas nécessairement son apparence, mais c'est sa capacité étonnante à respirer hors de l'eau. Contrairement aux poissons classiques, qui dépendent uniquement de leurs branchies pour extraire l'oxygène de l'eau, eh bien les dipneustes, eux, possèdent de vrais poumons. Les différentes espèces de dipneustes, qui sont donc réparties entre l'Afrique, l'Australie et l'Amérique du Sud, présentent des adaptations uniques en fonction de leur environnement. Le dipneuste australien, par exemple, il reste généralement dans des rivières stables, il ne possède qu'un poumon. Le dipneuste africain, il est le plus connu grâce à sa capacité remarquable à survivre dans des zones fortement saisonnières où les plans d'eau peuvent s'assécher pendant des mois. Et lorsque l'eau vient à manquer, eh bien le dipneuste africain, il panique pas. Il s'enterre dans la boue, il sécrète une espèce de substance un peu muqueuse qui va former comme une coque protectrice autour de son corps. Et à l'intérieur de ce cocon, il entre dans un état un petit peu de léthargie. Ça va réduire son métabolisme au strict minimum. Il peut ainsi rester dans cet état jusqu'à 3 ans, c'est quand même formidable. Il attend patiemment le retour de la pluie pour reprendre sa vie aquatique comme si de rien n'était. Il peut survivre comme ça en dehors de l'eau pendant 3 ans. C'est quand même fascinant. on parle d'un poisson. Les dipneustes ne sont pas des poissons, bien sûr, comme les autres. Ils sont là depuis plus de 400 millions d'années. Ils ont survécu aux extinctions massives, aux bouleversements climatiques, à l'évolution de la planète. Cette résilience et cette adaptabilité un peu extraordinaire font du dipneuste une véritable merveille de l'évolution. Donc, essayez de regarder, vous pouvez voir dans des revue ou sur certains sites internet à quoi ressemble la dipneuste. C'est pas nécessairement joli, mais voilà, c'est quand même totalement fascinant par contre d'avoir ce poisson qui est capable de survivre hors de l'eau pendant 3 ans. Assez fascinant. Autre petite bref petit article, et là aucune comment dire aucun lien, je ne vais pas me risquer à faire une transition. Il y a des comment dire des mini maisons pliables qui sont maintenant un petit peu elles ont le vent en poupe. Il y a une multitude de projets qui fleurissent, des plus ambitieux aux plus originaux. C'est plus qu'une tendance architecturale qui est née dans les années 2000. Ce sont les tiny houses qui incarnent une nouvelle façon d'habiter entre liberté, écologie et économie également. Ainsi, certaines sont comparables à des lingots d'or et bien d'autres sont plus sommaires. Une mini maison, un petit peu comme dans le film les Hobbits, toujours ces mini maisons un petit peu souterraines, et bien c'est un petit peu le même style. Et donc cette mini maison, elle se monte en 1 heure et sans outils. C'est quand même assez fascinant. Ça existe réellement, ça a été imaginé par une petite entreprise qui s'appelle Boxable et qui en fait c'est un père et son fils, ils ont créé leur entreprise et donc ils peuvent justement créer ces maisons qu'ils ont appelées la Baby Box. Cet espace de vie peut être installé par une seule personne et ça s'avère être une solution abordable pour celles et ceux qui recherchent un logement minimaliste et ou alors une résidence secondaire à transporter. Le prix de lancement de la Baby Box, c'est environ 18 500 euros. Ça va être pour le produit de base, ça peut avoisiner quand même, ça peut aller jusqu'à 28 30 000 euros. Et le poids, ça atteint 1,3 tonnes, ce qui permet à la petite maison d'être aisément tractée. Elle fait 11 mètres carrés de surface au sol, mais elle a un équipement qui est quand même assez complet, parce qu'elle a été pensée avec une isolation intégrale, une pompe à chaleur pour le chauffage et une climatisation également. Et puis, il y a un espace spécialement prévu pour installer une télévision, c'est quand même essentiel. La Baby Box abrite également une cuisine équipée, une salle de bain compacte, une petite salle à manger, un canapé avec lit escamotable spécifiquement fabriqué pour cet espace. Il y a des rangements également. Et donc, cette tiny house, vous pouvez regarder sur Internet également pour voir à quoi ça ressemble. C'est pliable et il y a également des réservoirs d'eau douce et d'eau usée, mais aussi des batteries pour continuer de vivre correctement hors réseau. Le constructeur a même pensé à installer des prises USB dans la cuisine pour la recharge de petits appareils électroniques. Mais voilà, donc une mini maison pliable prête en 60 minutes. Bah regardez, c'est quand même assez intéressant, c'est fascinant, c'est la technologie, c'est moderne. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça maintenant qui nous attend. Allez, on écoute encore un petit titre sur l'antenne de Graphite et puis on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
All out of oxygen and fall down right.
C'était Julie, c'est ce que l'on vient d'écouter sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h la revue de presse de l'actualité scientifique dans le cadre de cette émission Biotine sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Alors j'étais en train, voilà, j'ai tellement d'articles à évoquer que je fais un tri pendant les titres que l'on écoute. Il y a pas mal de sites Internet qui vous permettent de vous tenir informés de l'actualité scientifique. Il y a des sites qui sont très bien faits. Il y a Futura Science qui est une source vraiment intéressante d'articles. Il y a également les revues de vulgarisation scientifique, Science et Vie, Science et Avenir, qui proposent aussi des articles assez intéressants et des petites brèves. Et notamment cette petite brève du Science et Avenir de mars qui nous parle de cet hydrogel injectable contre l'ostéoporose. L'idée, c'est de pouvoir resolidifier rapidement les os des personnes qui souffrent d'ostéoporose. Eh bien, il y a des chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui ont mis au point une sorte de ciment, un petit peu un ciment osseux à injecter. C'est un hydrogel, plus précisément, qui est composé d'éléments conçus pour imiter les minéraux qui sont naturellement présents dans l'os. L'ostéoporose, ça se caractérise en effet par une dégradation des structures osseuses internes, ce qui rend plus sujet aux fractures les 4 millions de personnes qui en souffrent en France. Ça a été testé uniquement sur des rats pour l'instant, mais cet hydrogel a permis de tripler la densité osseuse au niveau du site d'injection. Et cette densité a même été multipliée par presque 5 lorsque l'injection était associée à des traitements classiques qui vont stimuler la formation osseuse et qui vont empêcher la résorption des os. Et ce, en moins d'un mois, c'est quand même assez intéressant, alors qu'il faut habituellement un an environ aux traitements actuels pour densifier les os des patients, ce qui les laisse exposés au risque de fracture durant cette période. Donc voilà, ça nous vient de Suisse, cet hydrogel injectable contre l'ostéoporose. Alors, autre petite brève également de Science et Avenir, c'est 13 individus, alors probablement des Gaulois, qui ont été enterrés entre l'an 300 et l'an 200 avant Jésus-Christ. Et ces 13 individus ont été découverts dans le sous-sol du centre-ville de Dijon par les archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive. Tous ont été inhumés d'une façon un peu étrange, parce que dans des fosses circulaires, ils étaient en position assise, le dos contre la paroi et le regard dirigé vers l'ouest. Une cinquantaine de défunts ont déjà été exhumés ainsi sur une douzaine de sites de la moitié nord de la Gaule. Alors la question, c'est pourquoi une telle position ? On n'en sait rien, mais c'est voilà, on suppose qu'ils sont gaulois et ça pose vraiment question de savoir pourquoi ils ont été inhumés comme ça, de position assise. C'est on n'a pas, comment dire, d'informations. Voilà. On n'a jamais eu d'explications pour savoir pourquoi ça se faisait comme ça. Et comme on va aussi passer par le Moyen-Âge, au niveau du Moyen-Âge, il y avait la peste bubonique. Eh bien, cette peste bubonique, elle refait surface aux États-Unis. L'Oregon vient de rapporter son premier cas en 8 ans. Rappelons que cette maladie redoutable n'appartient pas qu'au livre d'histoire. Et cette fois-ci, apparemment, ce serait un chat domestique qui serait à l'origine de la contamination, ce qui bouleverse le quotidien d'une famille américaine. Et ça alerte également les autorités sanitaires. Le patient donc de l'Oregon a développé des symptômes alarmants, bien loin des maux habituels et au-delà de la fatigue et de la fièvre. Il y a un abcès caractéristique qu'on appelle bubon qui s'est formé. Et cette manifestation rare dans le monde moderne a conduit à un diagnostic pour le moins surprenant, cette fameuse peste bubonique. La bactérie qui est responsable de cette affection, qui s'appelle Yersinia pestis, elle circule encore dans la nature, elle infecte principalement les petits mammifères et les puces, pouvant occasionnellement atteindre l'homme. Et donc aux États-Unis, on recense en moyenne 7 cas par an, principalement dans les zones rurales du Midwest et du Nord-Ouest. Alors les principaux vecteurs de transmission de la peste à l'homme, ce sont des morsures de puces qui auraient été infectées, un contact avec des fluides qui ont été contaminés d'animaux, ou une inhalation de gouttelettes qui seraient également infectées. Et dans le cas précis de ce qui se passe à l'Oregon, c'est un chat domestique, un chat de compagnie, qui aurait transmis la maladie à son propriétaire. En fait, le chat présentait lui-même des symptômes, ce qui suggère qu'il avait probablement été mordu par des puces qui étaient porteuses de la bactérie. Et cette situation, elle met en lumière le risque que représentent nos animaux de compagnie dans la propagation de maladies rares. Le docteur Richard Fawcett, qui est le responsable sanitaire de l'Oregon, il a souligné la gravité de l'état du patient, qualifiant ce cas de très sérieux. Alors, grâce aux antibiotiques modernes, le pronostic s'est rapidement amélioré. Les autorités ont également pris des mesures préventives en traitant les contacts proches du malade pour éviter toute propagation. La peste, bien que majoritairement associée à des épidémies historiques dévastatrices, ça demeure quand même une réalité dans certaines régions du globe. Elle est présente sur tous les continents excepté l'Océanie. Il y a des pays comme la République démocratique du Congo, le Madagascar, le Pérou qui connaissent encore des foyers endémiques. Aux États-Unis, la peste a fait son apparition au début du XXe siècle. Elle était importée par des rats sur des navires. Et bien que la dernière épidémie urbaine ait pris fin en 1925, et bien la bactérie a trouvé refuge dans les populations de rongeurs ruraux, ce qui provoque des flambées sporadiques loin des grandes villes. Malgré sa rareté, et bien la peste bubonique reste une menace à ne pas négliger. Et donc le cas de l'Oregon rappelle l'importance de la vigilance, particulièrement dans les zones à risque. Les propriétaires d'animaux domestiques doivent être attentifs aux signes inhabituels chez leurs compagnons et consulter rapidement un vétérinaire en cas de doute. Les autorités sanitaires soulignent l'efficacité des traitements modernes lorsque la maladie est détectée de façon précoce. Toutefois, sans prise en charge rapide, eh bien la peste elle peut évoluer vers des formes plus graves, potentiellement mortel quand même. La sensibilisation du public et la formation continue des professionnels de santé restent donc essentielles pour maintenir notre capacité à identifier et à traiter cette maladie ancestrale. Donc voilà, une maladie oubliée qui refait surface après 8 ans aux États-Unis. Et c'est un chat qui en serait responsable. Il s'agit de la peste bubonique. C'est quand même assez, je sais pas, assez extraordinaire. À voir également au niveau de ces maladies que l'on peut bien sûr avoir.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Sur Graphite, aucune transition avec l'autre article que nous allons évoquer. Selon un sondage d'OpinionWay réalisé en 2023, il y a 45% des Français qui préfèrent choisir la crémation et 19% l'inhumation. La dimension plus économique reste le premier critère mis en avant, mais la visée écologique prend de l'ampleur. Lorsqu'on lui demande de créer une sépulture un peu différente des modèles conventionnels, Frédéric Pierrement, qui est paysagiste de métier, imagine un tombeau naturel et de surcroît chaleureux, ce qui est quand même pas négligeable. L'idée étant bien en place, il s'associe à Jérôme Clergeot, qui est entrepreneur, qui a notamment développé une balance connectée pour le pesage des ruches. Et ils travaillaient tous les deux, ils ont fait évoluer le projet, ils ont choisi des matériaux et des plantes adaptées, et un travail qui a abouti à la première sépulture qui s'appelle l'Odela. L'Odela d'ailleurs. Mais oui, l'Odela, L-O-D-E-L-A, mais oh, comme c'est bien trouvé ça encore. Ils sont basés dans les Deux-Sèvres, vous pouvez regarder leur site et ça vous permet de voir un petit peu ce que proposent ces deux entrepreneurs qui n'hésitent pas à arpenter les routes de France pour installer leur pierre tombale, entre guillemets, qui séduisent de plus en plus de personnes. Et il utilise une plante grasse qui est nommée sédum et avec de l'acier, eh bien, il constitue les deux éléments principaux de cette sépulture l'Odela. Le premier, donc l'acier, c'est un métal connu pour sa résistance à la corrosion, donc aux intempéries. Et puis son aspect se patine par la rouille avec le temps, ce qui crée une esthétique unique. Et le sédum, cette plante grasse, ça fait partie des succulentes, c'est-à-dire que c'est une plante rustique qui s'adapte autant aux températures basses qu'aux périodes de sécheresse. Ça nécessite très peu d'entretien, ça ne se propage pas, c'est idéal donc pour pouvoir recouvrir les sépultures naturelles. Et puis, la tombe en cortène et en végétaux est totalement recyclable, puisqu'en plus des deux constituants principaux, il y a du terreau, il y a un tapis, il y a des billes d'argile qui la complètent. Et pour s'adapter au plus près de la personnalité du défunt, eh bien, il y a la possibilité de pouvoir personnifier la tombe. C'est un véritable marché hein, qui commence à s'épanouir. Donc, effectivement, on est sur des choses qui sont un peu dans l'air du temps, on va dire. La stèle, elle peut être embellie d'un dessin découpé au laser qui rend hommage aux défunts. Il y a des galets, il y a des végétaux, il y a des pots également de différentes formes et tailles qui peuvent être placées sur la tombe pour une plus grande singularité. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste une plaque, une pierre tombale, on va dire, avec du granit et quelques petites choses posées dessus. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus végétal, donc un peu plus naturel, bien évidemment. Le but, c'est d'offrir un lieu de repos apaisant et durable aux familles des défunts et aux générations qui se succéderont. Et donc voilà, c'est une invention française qui change un petit peu dans les cimetières. Donc bah, vous pouvez regarder un petit peu ce que ça donne. Effectivement, c'est, voilà, c'est aussi une... C'est du commerce, hein, c'est aussi une certaine économie qui est proposée, bien évidemment. Allez, on va se quitter avec un dernier titre. Allez, on va essayer d'avoir quelque chose un petit peu original et drôle. Se mettre les doigts dans le nez. Tiens, en plus, vous êtes à table, ce qui est quand même formidable. Je vous souhaite un bon appétit. Il y a un lien, apparemment, entre se mettre les doigts dans le nez et le risque d'Alzheimer, selon les scientifiques. Hein, la maladie d'Alzheimer, qui est le fléau du vieillissement cérébral, continue d'intriguer la communauté scientifique. Il y a une récente étude publiée dans la revue Scientific Reports, menée par des chercheurs de l'université Griffith, nous sommes en Australie. Cette étude apporte un éclairage inattendu sur les facteurs de risque potentiels. Leurs travaux suggèrent qu'un geste aussi banal que se curer le nez pourrait avoir des répercussions sur notre santé cérébrale à long terme. L'équipe de scientifiques australiens s'est penchée sur le comportement d'une bactérie bien connue qui est Chlamydia pneumoniae. Cette bactérie est responsable d'une certaine forme de pneumonie et elle a été retrouvée dans la majorité des cerveaux atteints de démence tardive. Les chercheurs ont démontré chez la souris que cette bactérie pouvait emprunter le nerf olfactif pour atteindre directement le cerveau. Ce qui a particulièrement interpellé le scientifique, c'est la rapidité avec laquelle cette bactérie colonise un petit peu le système nerveux central des rongeurs. Et par voie de conséquence, l'infection se produit en seulement 24 à 72 heures. Effectivement, c'est assez rapide. Et cette découverte, elle soulève des questions essentielles sur la vulnérabilité de notre cerveau face aux agents pathogènes présents dans notre environnement nasal. Et donc le geste anodin de se curer le nez prend une nouvelle dimension à la lumière de ces résultats. Par la suite, les dommages causés aux tissus nasaux lors de cette pratique pourraient ouvrir la voie à ces bactéries opportunistes. James St. John, qui est neuroscientifique dans cette université, met en garde, je cite, « Nous sommes les premiers à montrer que cette bactérie, hein, Chlamydiae pneumoniae, peut remonter directement par le nez jusqu'au cerveau, où elle peut déclencher des pathologies ressemblant à la maladie d'Alzheimer. » Ça fait quand même, ça fout les jetons quelque part. Hein. Les conséquences de cette invasion bactérienne, elles sont bien sûr préoccupantes. Les chercheurs ont observé une augmentation des dépôts d'une certaine protéine dans le cerveau des souris qui sont infectées. Or, eh bien, le fait d'avoir des masses de cette protéine, c'est caractéristique de la maladie d'Alzheimer chez l'homme. Donc du coup, on a fait l'association entre ce qui se passe chez la souris et chez l'homme. Et il est important de souligner, bien sûr, que ces résultats, bien qu'ils soient intrigants, proviennent d'études sur des souris et donc la transposition à l'homme, ça nécessite, hein, on le dit très souvent dans cette émission, ça nécessite bien sûr des études et des recherches complémentaires. Néanmoins, ces découvertes ouvrent de nouvelles pistes pour comprendre les mécanismes d'apparition de la maladie d'Alzheimer. En attendant des études plus approfondies chez l'homme, eh bien, les chercheurs recommandent la prudence et donc vous donnent quelques conseils pour préserver la santé de votre nez et potentiellement celle de votre cerveau. Évitez de vous curer le nez fréquemment. Ne tirez pas sur vos poils de nez, nous dit-on. Utilisez des mouchoirs doux pour vous moucher. Et maintenez une bonne hygiène nasale avec des solutions salines. Alors, cette étude, elle s'inscrit dans un effort plus large visant à comprendre les facteurs environnementaux influençant le développement de la maladie d'Alzheimer. Et donc, le docteur St. John souligne l'importance de ces recherches. Il dit, une fois passé 65 ans, votre facteur de risque augmente considérablement. Mais nous examinons d'autres causes, car ce n'est pas seulement l'âge. L'exposition environnementale joue également un rôle crucial, nous dit-il. Donc ces découvertes, elles ouvrent, et c'est ça qui est intéressant, de nouvelles perspectives dans la compréhension et la prévention de la maladie d'Alzheimer. Elles nous rappellent que chaque geste, même le plus anodin, peut avoir des conséquences sur notre santé à long terme. Restons donc attentifs aux avancées de la recherche et adoptons dès maintenant des habitudes plus saines pour préserver notre capital cérébral. C'est sur cette dernière information que nous allons nous quitter. Je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite, bien évidemment. Et d'ici là, vous restez fidèles et attentifs à l'ensemble des émissions que vous pouvez retrouver sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net sur Internet. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Au revoir.